France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse week-end. Et ce matin, l'occasion de la journée France Inter explore l'univers, comment le cinéma et les séries racontent l'espace. L'univers de Méliès à Star Wars, en passant par Interstellar ou Gravity, sans oublier évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace, en compagnie de l'astrophysicien Roland Lehoucq et du journaliste Olivier Delcroix. Bonjour Yolaine de Chano.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef au Parisien Week-end, quel sera votre plaisir littéraire?
Eh bien, comme je suis très nostalgique des comédies romantiques des années 90. Mon cœur a bondi à la lecture de Paris Hollywood, c'est de Cécile Murie, et c'est un petit bijou d'amour et d'humour.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
Auteur de Yalla, ma cuisine méditerranéenne, quel plat allons-nous partager ce week-end?
Alors aujourd'hui, je vous amène au soleil, je vous amène en Grèce, et on va découvrir une moussaka végétarienne.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans la vraie vie, le menu de votre chronique philo.
Eh bien, une question pour prolonger notre discussion. La conquête spatiale est-elle bonne pour l'homme?
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Qui redescend les marches de Cannes pour se mêler à nouveau au peuple. Quel est le menu de votre chronique Mauvaise Langue?
Eh bien, justement, je vais vous parler de ce voyage interstellaire que j'ai fait, parce que moi aussi j'ai approché des étoiles et je vais vous raconter tout ça.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebéi.
Murphy est une petite extra. Elle est très vive, mais elle s'attire de légers ennuis depuis quelque temps. Elle a apporté ça en classe et l'a fait lire aux autres le chapitre sur l'alunissage.
Ouais, c'est un vieux manuel à moi. Elle adore ses illustrations depuis toujours.
C'est un vieux manuel officiel. Nous l'avons remplacé par la version corrigée.
Corrigée ?
Qui explique que les missions Apollo n'étaient que des impostures destinées à ruiner l'URSS.
Vous estimez qu'on n'est pas allé sur la Lune ?
J'estime que c'était une brillante arme de propagande, que les soviétiques se sont ruinés en dilapidant d'énormes sommes pour des fusées et autres engins sans intérêt.
Sans intérêt, vous dites?
Et pour éviter de reproduire les excès et les immenses gâchis du XXe siècle, il nous faut expliquer la Terre à nos enfants au lieu de prétendre qu'on peut la quitter.
Bonjour Roland Lehoucq.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et vous enseignez à Sciences Po, à l'Université Paris-Cité, vous êtes président du festival de science-fiction Les Utopiales, et vous avez publié avec Florence Porcel L'humain dans l'espace, entre réel et fiction, aux éditions de La Martinière. Bonjour Olivier Delcroix, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Cannes, vous êtes critique de cinéma et de BD au Figaro, et vous avez notamment publié le cinéma d'action américain chez Eubek. Alors Roland Lehoucq, l'une des premières représentations de l'espace au cinéma remonte au film de Méliès en 1902, Le Voyage dans la Lune, libre adaptation de Jules Verne. C'est ça, c'est bien ça, ça commence comme ça?
Absolument, ça commence comme ça. Le cinéma commence comme ça, le cinéma de science-fiction commence comme ça, et c'est le choix qui a été fait par Méliès à l'époque, c'était de montrer un voyage vers la Lune inspiré des romans, du roman éponyme de Jules Verne, qui a eu un grand succès et qui permettait de montrer tout un tas de choses extraordinaires et de profiter des nouveautés du cinéma, d'abord de la nouveauté technique, mais aussi des nouveautés, on appellerait ça d'effets spéciaux maintenant, enfin à l'époque, vous voyez bien ce que ça pouvait être, c'était quand même assez rudimentaire, mais néanmoins qui permettait, eh bien, disons, de faire des choses visuellement exaltantes pour le public.
Et pendant longtemps, la Lune a été la destination favorite au cinéma. Hein.
Oui, c'est vrai, pas qu'au cinéma d'ailleurs, un peu pour tous les gens qui imaginaient, tous les auteurs qui imaginaient aller ailleurs que sur Terre, sortir de la Terre. La Lune, elle a l'air suspendue au-dessus de notre tête. Le Soleil, on pense que c'est une destination sans doute un peu dangereuse, sans trop savoir pourquoi, on a l'impression qu'il est chaud, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. La Lune, elle est là, dans nos nuits, elle a l'air tangible. On sait depuis Galilée et bien après qu'il y a des cratères, qu'elle a quelques propriétés communes avec la Terre. Et alors, on a imaginé assez naturellement que peut-être il y aurait des êtres vivants, des sélénites à sa surface.
Et dans les œuvres cinématographiques récentes, c'est plutôt la planète Mars qui a supplanté la Lune dans l'imaginaire des cinéastes.
Oui, c'est vrai. Alors la Lune, d'abord, on s'est rendu compte que c'était sans doute un peu difficile d'y vivre. On a rapidement compris qu'il y avait peu d'atmosphère. En fait, il n'y en a quasiment pas. Que les conditions étaient sans doute impossibles pour la vie telle que nous la connaissons. Alors ensuite, on s'est retourné vers une planète qui n'est pas très lointaine. Elle est dans notre système solaire. Elle n'est pas si lointaine, mais enfin, l'air de rien, on en savait moins. Et puis, il y a eu une période, à la fin du 19e siècle, où certains observateurs, des astronomes amateurs fortunés, et qui s'étaient payés des grandes lunettes, ont cru voir des canaux à la surface de Mars, des structures régulières qui ont été interprétées comme des canaux, un peu comme on ferait des canaux, je ne sais pas, le canal de Suez, par exemple. Et ces canaux étaient si prisés que tout le monde voulait les voir, les représenter sur des... Il y a des cartes de Mars, même des globes de Mars, où les canaux sont représentés. Et on imaginait, bien sûr, que ces canaux, vu leur rectitude, étaient d'origine artificielle, donc forcément fabriqués par des Martiens. Et comme on les voyait, semble-t-il, venir des pôles vers l'équateur, eh bien les Martiens avaient probablement des problèmes d'eau et siphonnaient la glace des pôles pour en faire de l'eau liquide consommée à l'équateur. Bref, on avait comme ça dans l'idée qu'il y avait des Martiens, une civilisation martienne. Et puis ensuite, bien sûr, des critiques se sont faites jour. D'abord, on a constaté que ces canaux étaient sans doute une manière d'hallucination et qu'ensuite, les conditions de surface de Mars, qu'on a petit à petit précisées au fil des observations astrophysiques, et puis notamment avec l'arrivée des sondes. Alors là, on est déjà dans les années 60, la sonde Mariner 9, je pense. Et bien, on s'est rendu compte que, bien sûr, tout ça ne tenait pas la route et que Mars était une planète aux conditions difficiles pour les humains, pour ne pas dire impossibles pour les humains, mais qu'elle avait tout un tas d'autres propriétés intéressantes qui fait que maintenant, c'est une planète très explorée.
Et Mars et les Martiens ont excité évidemment l'imaginaire des réalisateurs, des scénaristes.
Bien sûr, alors on voit alors déjà les Martiens comme extraterrestres. Alors l'extraterrestre qui est une sorte de miroir des humains et qui permet de projeter des choses en miroir de l'humanité. Et notamment, on le voit chez Herbert George Wells, c'est sa Guerre des mondes, où les Martiens arrivent sur Terre. Et ce que cherche à faire Wells dans cette science-fiction émergente, qui ne s'appelle pas encore science-fiction, qui est pour les anglophones la scientific romance, ou ce qui s'appellera en France le merveilleux scientifique, l'idée est de montrer ce que ça fait à la bonne bourgeoisie anglaise d'être écrabouillée par une civilisation ultra supérieure, comme le faisait cette bonne bourgeoisie, du moins ses émissaires, dans les peuplades, pour les peuplades éloignées, du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du côté de la Nouvelle-Calédonie, de l'Australie, etc. Et donc l'idée était de montrer en regard ce que ça fait pour une civilisation qui se pense avancée d'être littéralement écrabouillée par ces Martiens, qui finalement seront vaincus par des êtres microscopiques, mais ce que ça fait. Donc il y avait à la fois une manière d'émerveillement technique, c'est-à-dire de montrer des objets techniques incroyables, ces Martiens avec leurs rayons de la mort, enfin tout un tas de choses extraordinaires, qui font une histoire qui est tendue, on va dire, et puis ensuite d'avoir un sous-texte politique, pour le coup, qui permet d'exposer des idées, les idées de l'auteur.
Olivier Delcroix ?
Oui, effectivement, Mars, moi j'y suis plutôt allé, en réalité, avec Ray Bradbury et les chroniques martiennes que j'avais découvert quand j'avais une dizaine d'années et qui m'ont littéralement projeté dans un monde très très poétique, parce qu'effectivement, pour moi, l'espace, puisqu'on parle d'espace aussi, c'est un champ des possibles, hein, c'est ce qu'on appelle dans Star Trek l'espace frontière de l'infini. Voilà, et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, qui a effectivement toujours attiré le regard des hommes, hein, et dans toutes les séries aussi, dès qu'on regarde comme ça, dès qu'on lève le nez vers l'espace avec ces étoiles, les étoiles filantes, les comètes, les météores, les météorites, moi ça m'a depuis ma toute petite enfance fasciné, et donc forcément j'ai cherché à travers évidemment Hergé d'abord la bande dessinée avec Objectif Lune évidemment, et on a marché sur la Lune, j'ai cherché à y aller, ensuite effectivement dans les années 70-80, il y avait des séries anglaises comme Cosmos 99 aussi, ou UFO, qui étaient créées par Jerry et Sylvie Anderson, qui m'ont permis aussi de continuer sur cet énorme terra incognita qui était l'espace. Et effectivement, il y a quand même chez Bradbury, et moi c'est ça qui m'a véritablement traversé l'esprit et rempli le cœur, c'était une vraie poésie. Dans les chroniques martiennes, chez les Martiens, une vraie poésie, une mélancolie, une philosophie de la vie, et c'est un miroir inversé de ce que nous pouvons être, et ça m'a de toute façon toujours fasciné, et c'est pour ça aussi que j'allais chercher au cinéma, dans Planète Interdite, dans Mars Attacks, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, la puissance onirique de l'espace, et qui effectivement de toute façon, dès que l'été revient et dès que les comètes arrivent au mois d'août, il est absolument recommandé, génial et formidable de pouvoir se mettre sur un transat et de regarder le ciel pendant des heures.
De quelle façon, Roland Lehoucq, la fiction, la science-fiction, a influencé votre carrière d'astrophysicien et plus largement votre goût pour l'univers et pour l'espace.
Pas du tout. Alors curieusement, pas du tout. En fait, je veux faire de l'astrophysique depuis que j'ai 9 ans, enfin de l'astronomie. Je m'intéresse à l'espace, disons à l'astronomie et au ciel visible depuis la Terre depuis 9 ans. Mais c'est ensuite vers 12-13 ans, quand je suis tombé dans la science-fiction par le biais de la bibliothèque de mon père qui en contenait beaucoup. Là, j'ai dit, ah voilà, ça c'est ça que je veux lire. Et donc j'ai arrêté de lire les petits Mickey, si j'ose dire, et j'ai commencé à lire d'autres choses, notamment ces œuvres de science-fiction, et qui parlent beaucoup d'espace. La science-fiction, c'est quand même un genre qui est né pour partie dans l'espace, ou d'une volonté, d'une exaltation pour le progrès scientifique et technique, mais aussi pour le voyage, l'exploration, et notamment de l'espace.
Allez, il est l'heure de retrouver le plaisir littéraire de Yolaine Dechano du Parisien Weekend. Alors, Yolaine, vous avez choisi le roman Paris-Hollywood de Cécile Murry, journaliste à Télérama, un roman publié chez Flammarion.
Oui, c'est une comédie romantique comme on n'en fait plus finalement, et je peux vous dire que ma vie a changé après la lecture de ce livre. Alors certes, j'ai grandi dans les années 90 et 2000 et je sais bien maintenant que Jude Law ne sera jamais vraiment l'homme de ma vie. Tout simplement parce que c'est déjà l'homme de la vie de plein de monde. Donc, avec le recul et la maturité, j'ai décidé que Ben White, le ténébreux héros de Paris-Hollywood, serait mon nouveau Jude. Et j'ai aimé le rencontrer en livre plutôt que sur écran parce que ça m'a permis de lui donner la physionomie qui m'arrange. Entrons dans le vif du sujet. Ben White, c'est le grand acteur hollywoodien du moment. Il est aussi doué en gladiateur qu'en pourfendeur de zombies dans son dernier blockbuster. Ben White, c'est un peu Brad Pitt, mais en moins blond. Un peu Johnny Depp pour le côté bad boy sauvage et finalement pas mal Keanu Reeves pour la sensibilité qui affleure évidemment derrière l'homme tout en muscles. Quand Marianne Corvo, journaliste dans le magazine culturel de référence de Paris, et oui, on comprend très vite qu'il s'agit de Télérama, comme l'autrice Cécile Murry, qui est journaliste. Bref, quand Marianne Corvo est chargée de l'interviewer quelques minutes dans un palace parisien, c'est ce qu'on appelle une junket en presse, elle perd tous ses moyens. Parce qu'elle connaît tous les films de ce sexe symbole du 7e art et qu'elle est folle de lui depuis qu'elle est en âge d'être folle d'un homme. Cette jeune journaliste, pourtant assez aguerrie et sérieuse, va multiplier les bourdes et les maladresses. Et contre toute attente, Ben White va craquer pour elle. S'ensuit une succession de nuits sans lendemain, de rencontres improbables avec garde du corps et agents. Marianne fond pour l'homme, mais sa raison fait barrage. Elle ne veut pas être la énième conquête de cet acteur le plus sexy de la planète. Et ces deux-là vont beaucoup se charrier, beaucoup rigoler, beaucoup se mordre aussi, se laisser aller à des confidences. Et alors vous allez me dire, voilà encore une romance à la noix. Eh bien, pas du tout. D'abord parce que ça raconte avec justesse et impertinence les coulisses du monde du cinéma et de la célébrité. Ensuite, parce que Cécile Murry a une plume drôle, d'une indéniable efficacité. Et enfin, parce qu'en terminant ce roman, on renoue avec ses rêves d'amour XXL. Et l'on se dit que c'est crédible qu'un acteur hollywoodien, Jude Law ou autre, veuille vivre dans un coin paumé avec une petite journaliste française. En tout cas, ne laissez personne, s'il vous plaît, vous dire le contraire.
Et est-ce que votre Ben White, quand vous avez lu ce roman, avait les traits de Thibaut de Saint-Maurice ou de Grégory Cohen
Eh bien, un mélange, un doux mélange des deux.
Ça doit être quelque chose.
Ça peut être pas mal. Hein.
Oui. Ouais. Et donc, ça s'appelle Paris-Hollywood de Cécile Murry chez Flammarion. Et nous recevrons l'autrice à la fin du mois de juin. À la une du Parisien Week-end ce matin, Yolaine Dechano.
Eh bien, on raconte 100 ans d'histoire de Roland Garros. Avec une très belle photo d'archives d'une joueuse dans les années 20. Et on y rappelle notamment que Roland Garros, eh bien, il ne jouait pas au tennis, qu'il était pilote et qu'il était fan de rugby. Voilà.
Allez, dans un instant, une sélection de films et de séries qui mettent en scène l'espace. On se retrouve juste après avoir écouté Soft Cell, Tainted Love, une chanson sortie en 1981. Time. Soft Cell interprété Tainted Love.
France Inter.
Et les étoiles, là, elles sont belges?
Évidemment qu'elles sont belges, les étoiles.
Mais papa, la Terre, elle tourne. Hein. Ben alors, les étoiles, là, elles vont en France et elles deviennent françaises.
Grand bien vous fasse.
Non, parce que tu vois, les étoiles, elles voyagent à l'étranger, mais elles ne s'y plaisent pas. Alors, elles tournent autour de la Terre toute la journée, et le soir, elles reviennent en Belgique pour dormir. Voilà.
Allez, réveille.
Grand bien vous fasse week-end à l'occasion de la journée spéciale France Inter, explore l'univers, on se demande comment le cinéma et les séries racontent l'univers et une petite sélection d'œuvres choisies par l'astrophysicien Roland Lehoucq et le journaliste Olivier Delcroix. Roland Lehoucq, dans l'immense production cinématographique et sérielle qui met en scène l'espace, certaines œuvres ne s'attachent absolument pas à la crédibilité scientifique, alors que d'autres essayent de l'être le plus possible. Je pense par exemple à Interstellar, sorti en 2014, Interstellar de Christopher Nolan. Par exemple, une revue scientifique comme American Journal of Physics a publié un article intitulé « Visualisation du trou noir d'Interstellar ». Donc il y a deux types d'œuvres, grosso modo, Roland Lehoucq. Celles qui se fichent complètement de la crédibilité scientifique, ouais. Et celles qui s'attachent à l'être le plus possible.
Oui, alors effectivement, je ne sais pas s'il y a deux types, il y a peut-être un continuum entre des œuvres qui s'en foutent totalement, mais ce n'est pas très grave en réalité, parce que finalement, la qualité d'un film ne dépend pas de la qualité des idées scientifiques ou de la façon dont ils présentent les idées scientifiques. Si elles ont l'air un peu ridiculement présentées, évidemment, ce n'est pas très satisfaisant pour les scientifiques, mais ce n'est pas grave, regardez Star Wars, ce n'est pas gênant. Maintenant, il y a des œuvres qui s'attachent à faire des choses aussi crédibles que possible, mais néanmoins, pour des raisons souvent de narration, elles ont besoin de, disons, truander un peu la science. Mais ce n'est pas très grave, parce que c'est pour un objectif, disons, propre au film, logique narratif ou esthétique propre au film. Et donc, de ce point de vue-là, Interstellar est plutôt un bon film. Et effectivement, les équipes du film alliées à Kip Thorne ont publié même deux articles. Il y en avait un que vous avez cité dans American Journal of Physics, qui est une revue scientifique américaine, mais qui publie plutôt des articles, disons, de haut niveau pédagogique à destination des enseignants à l'université. Et donc, c'était un article qui leur est destiné pour des jeunes gens, des étudiants, ou s'adressant à des étudiants de haut niveau. Et puis, de l'autre côté, ils ont publié un article très technique, qui ne s'adresse qu'à des chercheurs, dans une autre revue, dont le nom est tout un poème, qui s'appelle Classical and Quantum Gravity.
Peut-on dire, Roland Lehoucq, que notre représentation de l'espace est influencée par le cinéma et les séries ?
Alors certainement, mais comme beaucoup d'autres choses, il n'y a pas que le cinéma et les séries qui nous influencent, il y a aussi, appelons ça le storytelling des agences spatiales, les façons, les films qu'elles montrent, les images réelles qui sont montrées, tout ça nous influence, mais le cinéma, évidemment, y participe, et avant le cinéma, y participaient aussi les œuvres de science-fiction. Un auteur comme Robert Heinlein, un auteur de l'âge d'or de la science-fiction, disons les années 50 à 60, a écrit un certain nombre de romans juvéniles, c'est-à-dire des romans s'adressant à un jeune public, qui se passent souvent dans l'espace, avec une densité scientifique et une qualité scientifique très élevée, avec l'objectif explicite d'attirer les jeunes gens vers les métiers d'ingénierie en général, et singulièrement d'ingénierie spatiale. Et du moment où les Américains ont posé le pied sur la Lune, il a dit « Mon travail est fini, je peux revenir à la science-fiction adulte ».
Roland Lehoucq, quelles sont les thématiques récurrentes dans les films et les séries qui mettent en scène l'espace, l'univers ?
Alors, je dirais souvent l'exploration, le goût de la découverte d'endroits, de mondes inconnus. Bien sûr, on le voit dans Star Trek, que citait tout à l'heure Olivier Delcroix. Bien sûr, il y a aussi le danger qui peut être suscité par l'exploration de ces mondes. Alors, dans un film comme Gravity, qui n'est pas un film de science-fiction, dans un film comme Gravity, on voit bien que c'est dangereux, l'espace, c'est dangereux, et pas que dans Gravity, mais dans Gravity en particulier. Il y a aussi, pour partie, une part d'exaltation pour la technique, parce que là, on est dans un monde... L'espace est rédhibitoirement hostile à la vie en général et à la vie humaine en particulier. Donc, dès qu'il y a le moindre problème, c'est tout de suite une catastrophe, et donc ça donne lieu à des enchaînements, Seul sur Mars, Gravity, bien entendu, Interstellar, enfin... pratiquement tous les films qui se passent dans l'espace.
Et 2000 ans, l'Odyssée de l'espace.
Bien sûr.
Alors, impossible de faire une émission sur la représentation de l'espace au cinéma sans évoquer 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sorti en 1968. Olivier Delcroix, journaliste au Figaro.
Ben oui, effectivement, moi, c'est en regardant, en allant au cinéma pour la première fois dans les années 80, quand je suis sorti de 2001, l'Odyssée de l'espace, j'avais appris qu'il n'y avait pas de bruit dans l'espace. Ça, c'est quelque chose qui m'a totalement épastrouillé, parce que moi qui suis un enfant de Star Wars, normalement, les rayons laser sont pétaradants, tout le monde parle dans l'espace, enfin, il y a de la musique, tout ça, et tout d'un coup, dans 2001, eh bien, il n'y a pas de musique dans l'espace, il n'y a pas de son dans l'espace, nous sommes seuls. Et ça m'a permis en fait de relativiser ce film, qui a été un vrai choc, ça m'a permis de relativiser soudain l'importance de l'être humain dans le concert infini de l'univers, et puis même moi, de ma petite personne au sein de l'humanité. Bah, tout d'un coup, effectivement, on se sent très 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 petit. Je voulais aussi revenir quand même sur l'ancêtre d'Interstellar, qui est un autre film que j'ai vu quand j'étais ado. C'est Le Trou Noir de Gary Nelson, qui est sorti en 79, et ce film qui est quelque part, voilà, le prototype, la première ébauche d'Interstellar, visualise ce que c'est qu'un trou noir. On y découvre en fait une sorte de vaisseau spatial très Jules Verne, hein, avec une esthétique Tour Eiffel, dans lequel un espèce de personnage qui est le docteur Hans Reinhardt, incarné par Maximilian Schell, qui ressemble à une sorte de Capitaine Nemo, le vieux Capitaine Nemo, celui de l'île mystérieuse, qui veut absolument étudier ce que c'est que le trou noir, parce qu'en fait, si ça se trouve, c'est là, en traversant le trou noir, qu'on va pouvoir découvrir un autre univers, traverser le miroir. Enfin, c'est le miroir aux alouettes ultime, en fait, le trou noir dans le film de Disney. Moi, c'est un film qui m'a profondément marqué et que je relis de manière totalement logique à Interstellar et aussi à 2001, parce qu'effectivement, on s'aperçoit là tout d'un coup que l'espace, c'est aussi un espèce de grand... des galaxies lointaines, très lointaines, mais qui font peur.
Roland Le Houx sur 2001, l'Odyssée de l'espace.
Oui, alors c'est un film qui a eu aussi la volonté d'avoir une exactitude scientifique, si ce n'est parfaite, en tout cas très élevée, d'être une plausibilité extrêmement élevée. Alors, à la fin, évidemment, les choses changent un peu, mais effectivement, de ce point de vue-là, le film s'inspirait de tout un tas d'idées, notamment pour la station que l'on voit, pour la façon dont les vaisseaux sont propulsés, pour la base lunaire, etc. S'inspirait d'idées qui étaient déjà en l'air, avant même qu'on aille sur la Lune, en 68 donc, s'inspirer d'idées qui étaient déjà en l'air, notamment dues à Werner von Braun, l'ingénieur nazi qui a travaillé pour les Américains et qui a, par son esprit d'ingénieur remarquable malgré tout, été capable de produire la fusée, en tout cas ses équipes, de produire la fusée Saturn V qui a ensuite amené les Américains sur la Lune. Et von Braun avait aussi des idées sur les étapes suivantes qui passaient par des grandes stations orbitales, dont la station que l'on voit dans 2001, et ensuite la colonisation de Mars, enfin d'aller sur Mars et de coloniser Mars.
Partout où je vais, je suis le premier. C'est une sensation étrange. Je saute du rover, je deviens le premier homme à fouler ce sable. Je gravis cette colline, personne ne l'avait gravi avant moi. 4,5 milliards d'années, personne. Et maintenant, moi. Je suis le premier homme à me retrouver seul sur une planète entière.
Extrait de Seul sur Mars, un film réalisé en 2015 par Ridley Scott avec Ben Affleck. Est-ce une représentation plutôt crédible de la conquête de Mars, Roland Le Houx ?
Oui, encore une fois, Seul sur Mars est un film qui est bien fait du point de vue technique. Il y a beaucoup d'éléments bien faits. Il y a aussi des choses tout à fait, disons, presque désastreuses pour certaines d'entre elles, mais beaucoup de choses sont bien faites. Il est fondé sur un roman de Andy Weir, qui s'appelle The Martian, le Martien, et qui a été fait par un ingénieur de l'aérospatiale américaine, et donc qui a été bien éduqué, si j'ose dire, au point de vue des éléments techniques. Ça explique pourquoi le film, ensuite, qui en a été tiré, soit si cohérent, même si, encore une fois, il y a beaucoup de choses à discuter.
Olivier Delcroix, sur Seul sur Mars.
Ah, moi j'ai trouvé ça formidable aussi, hein. c'est Ridley Scott derrière, hein. Donc forcément c'est l'ultime survival, c'est un type tout seul qui se met à planter des pommes de terre sur la surface dorée et rougeoyante d'une planète sans vie. Et en fait, forcément, c'est Robinson Crusoe en version futuriste. Moi, c'est quelque chose de formidable. Et forcément, après l'avoir regardé avec mes enfants, je leur ai dit maintenant, lisez le roman de Robinson Crusoe.
Seul sur Mars, j'ai dit que c'était un film avec Ben Affleck, pas du tout, c'est un film évidemment avec Matt Damon, mais vous aurez sans doute corrigé de vous-même. Alors je dois vous avouer que j'ai vu ce film 3 fois en salle, notamment en IMAX, et c'est l'une des expériences en salle parmi les plus extraordinaires que j'ai vécues, c'est Gravity d'Alfonso Cuarón, sorti en 2013 avec Sandra Bullock et George Clooney.
Les Chinois doivent être à 150 km. On n'a qu'à se faire une petite virée.
On peut pas y aller.
On va se gêner.
J'ai tout essayé, il n'y a pas de carburant.
Ouais, il y a toujours un petit truc à tenter.
J'ai tout essayé.
Les rétrofusées d'atterrissage aussi?
Elles servent à atterrir, alors...
Eh oui, atterrir, c'est décoller. C'est pareil, on te l'a pas dit à l'entraînement, ça?
J'ai jamais réussi à atterrir avec le simulateur, tu le sais bien.
Mais tu connais la manœuvre.
Et je me suis scratché chaque fois,
c'est pas ici. Tu veux repartir ou tu veux rester là? C'est vrai, on est bien ici. T'as qu'à... désactiver tous les systèmes. T'as qu'à tout éteindre. Silence radio, il te reste plus qu'à fermer les yeux. Et si personne peut t'atteindre, ou te faire du mal.
Prends le look, c'est une énorme claque, Gravity.
Oui, oui.
D'Alfonso Cuarón en 2013.
Oui, oui, ça c'est visuellement très réussi. C'est-à-dire que, du point de vue encore scientifique, il y a énormément à dire en bien et en moins bien. Donc ça reste un film intéressant pour ça, si on veut l'utiliser pour ses vertus, disons, didactiques, comme on pourrait le faire avec Interstellar ou Seul sur Mars, ce que je fais, d'ailleurs, dans un centre de conférence. Mais du point de vue visuel, c'est incroyable. Ouais. Et c'est incroyable au point qu'un astronaute comme Jean-François Clairvoy a plusieurs fois dit que la représentation qui était montrée à l'écran était extrêmement proche de ce qu'est des sensations qu'il avait ressenties. Alors, l'impesanteur en moins, parce qu'on est dans la salle sur son fauteuil avec son poids, mais des sensations, en tout cas visuelles, qu'il avait ressenties lui-même quand il était dans l'espace. Donc de ce point de vue-là, il y a eu un très gros travail, un très beau travail qui a été fait pour l'impression visuelle que donnait se déplacer dans un scaphandre avec des vues en première personne, toutes les contraintes que ça imposait, les difficultés que ça imposait.
Ce que racontait Gravity en quelques mots.
Gravity, alors c'est un film catastrophe, disons. Ce sont des astronautes qui sont en orbite autour de la Terre pour réparer le télescope spatial Hubble, ce qui a été fait effectivement plusieurs fois. Et puis il y a des débris qui les frappent et qui détruisent la navette et qui tuent la plupart des personnages, sauf deux, les deux héros, et qui doivent ensuite rentrer sur Terre alors qu'ils sont dans l'espace, à la dérive dans l'espace, avec assez peu de moyens de se déplacer et être obligés, alors pour l'héroïne, d'aller de station en station, pratiquement c'est ça, d'aller de station en station pour à la fin finir par retrouver le sol terrestre. Donc là, cette héroïne, en dépit de son courage et de sa volonté, aurait dû mourir à peu près à chaque fois qu'elle fait quelque chose, mais l'ambiance, il y a tout un tas d'éléments qui sont fort bien montrés et visuellement très spectaculaires.
Olivier Delcroix.
J'apprécie aussi dans Gravity, c'est les frissons, les poils qui se dressent sur les bras, le côté extrêmement immersif. Et puis cette idée aussi que dans ce survival spatial, haletant, Sandra Bullock en fait dialogue avec sa conscience et George Clooney incarne une sorte de Jiminy Cricket qui va lui souffler les bonnes questions pour qu'elle trouve les bonnes réponses, pour qu'elle puisse mettre en place son instinct de survie pour pouvoir finir par ressentir à nouveau la gravité. Et c'est un film qui est formidable parce que ouais, bon, même si je spoil un peu en expliquant que Clooney, malgré sa présence physique dans le film, n'est plus là, il incarne cet esprit de survie, cet instinct qui va forcer l'héroïne à trouver des réponses. Avec ce final extraordinaire où tout d'un coup elle se lève et elle ressent à nouveau le plaisir d'avoir de la gravité sur Terre.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, c'est très bon parce que c'est un film qui inverse aussi l'épopée classique sur l'espace, c'est-à-dire qui consiste souvent à trouver le moyen de partir de la Terre et d'aller dans l'espace, d'explorer,
oui.
Ou bien sur la Lune, ou bien sur notre planète, ou bien en orbite, enfin voilà. Et là, le film part du postulat inverse qui est comment rentrer. Et ce qui permet aussi de comprendre que cette histoire d'exploration spatiale ou de conquête spatiale, elle n'est pas univoque. elle a lieu aussi, ou en tout cas, elle pose des questions dans plusieurs directions. Et c'est ça que j'ai trouvé assez touchant dans ce film, au-delà évidemment de sa très très grande efficacité de tension narrative, dramatique pour le spectateur.
Sandra Bullock, en fait, pardon, oui. Sandra Colombo.
Sandra presque Bullock. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça m'a beaucoup fait penser à Abyss, ce film où, en miroir en fait, de l'infiniment grand d'en haut et de l'infiniment grand des océans, il y a cette... Et surtout, moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est la voix qui porte, la voix qui dit on est là, qui nous relie comme un fil extraordinaire. Et je crois que c'est pour ça que j'aime vous entendre à la radio, Ali.
Oh, bien sûr. Roland Lehoucq.
Oui, l'idée que vous suggérez tout à l'heure de ce renversement, la difficulté c'est de rentrer sur Terre, c'est pas tellement de partir dans l'espace finalement. On la retrouve aussi, alors pas au cinéma cette fois-ci, mais dans un roman de Kim Stanley Robinson, qui s'appelle Aurora, où effectivement des humains partent pour un voyage interstellaire. Et je vais pas tout raconter, parce qu'on n'a pas le temps, et puis ça serait spoiler le très bon roman de Robinson, reviennent sur Terre. Et finalement, ils réalisent que c'était une impasse, en fait. Ils se sont engagés dans une impasse, et ils l'ont constaté en pratique. Et pour Abyss, ce qui est intéressant avec Abyss, c'est que c'est un film presque spatial, puisque finalement, on y voit des extraterrestres dans les fonds marins très profonds. Dans l'eau, on est en une manière d'imposanteur, la poussée d'Archimède qui fait sonner le téléphone dès qu'on est dans le bain, fait flotter les objets aussi, nous fait flotter dans les eaux. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les astronautes s'entraînent à l'impesanteur. Et enfin, il faut réaliser qu'on connaît moins bien la surface, la cartographie des fonds marins océaniques terrestres que la surface de Mars ou de la Lune.
Alors, Olivier Delcroix, vous avez évidemment choisi, tel que je vous connais, Star Wars de George Lucas, le premier film de la saga sorti en 1977.
Exactement, ouais. Déjà, dès l'entrée, là, vous me ravissez. Ça a été un choix et une explosion que je pense que j'ai dû voir une quinzaine de fois le film. J'avais 10 ans et tout d'un coup, c'était la grande évasion vers l'espace. En même temps, il faut bien se rendre compte que dans les années 70-80, les sociétés, en fait, lèvent les yeux vers l'espace. On est attiré par l'espace. Rencontre du troisième type de Spielberg, c'est ça aussi. C'est l'envie de découvrir le grand ailleurs, de s'évader pour de bon. Star Wars permet cette incroyable évasion. En plus, c'est une histoire de famille. En faisant une sorte de précipité, de raccourci, on se rend compte que dans Gravity, au 21e siècle, on n'est plus à lever les yeux, on les baisse. Et c'est vrai que voilà, Star Wars, ça reste quand même une utopie, au même titre d'ailleurs que celle de Star Trek. Hein. C'est Flash Gordon, c'est la romantisation ultime de ce que c'est que l'espace et quelque part aussi une naïveté, une innocence dans la découverte de ces étoiles avec R2-D2, avec 6PO, avec Luke Skywalker, etc. Puis le méchant, le je suis ton père,
vous le faites
Dark
bien.
Vador, le méchant ultime du cinéma du XXe siècle. Voilà, donc il y a tout ça aussi.
Refaites-le un coup, Olivier Delcroix, vous faites très bien.
Refaites-le. Je suis ton père. Oui, quand mon fils fait des bêtises, je dis ça. Ça le calme tout de suite.
Il est rarement dans la lune, Thibaut de Saint-Maurice et sa chronique philo.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, vous prolongez notre conversation ce matin en vous demandant si la conquête spatiale est une bonne chose pour l'homme.
Oui Ali, alors ce sont des images qui font rêver, hein, toutes celles dont on a parlé, ces fusées qui s'élancent vers le ciel, des hommes et des femmes en combinaison argentée qui marchent sur la Lune, le reflet d'une planète bleue sur la visière d'un casque. Depuis la mission Apollo jusqu'au projet de colonisation de Mars, en passant par les longs séjours dans la Station Spatiale Internationale, la conquête spatiale donc fascine. Elle incarne le progrès, l'audace, le dépassement. Mais cette conquête est-elle vraiment bonne pour l'humanité. À première vue, en levant les yeux vers le ciel et en repoussant l'horizon de nos rêves, nous ne faisons que continuer de développer notre humanité. Parce que depuis ses débuts, l'humanité se reconnaît à sa capacité à dépasser sa condition. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau, par exemple, fait de ce qu'il appelle cette perfectibilité, c'est-à-dire cette capacité à progresser et à se perfectionner, la signature de notre humanité, notamment par rapport aux autres animaux. À ce titre, donc, la conquête de l'espace ne serait que la continuité de notre désir de savoir et d'exploration du monde, et s'y opposer reviendrait à nier la destinée de l'humanité.
Mais cette exploration n'est-elle pas sans limite ? N'avons-nous pas aussi des raisons de nous en inquiéter ?
Oui, c'est bien toute la question. Elle se posait d'ailleurs déjà au siècle dernier, lors des premières missions d'exploration, et elle continue d'interroger notre siècle et ses nouveaux projets d'exploration et de colonisation. Le philosophe allemand Günther Enders voyait, lui, au contraire, dans la conquête de l'espace, alors c'est son expression, un exploit sans pourquoi, une quête vaine et absurde, et finalement donc le début de l'obsolescence de l'homme. Pourquoi une telle sévérité ? Parce qu'il pointait un décalage entre la débauche de moyens techniques, humains, financiers, pour un but finalement sans grande signification morale. Pourquoi déployer tant d'efforts à explorer l'espace et à poser le pied sur la Lune quand il y a tant à faire sur la Terre ? Alors c'est une question qui ressurgit aujourd'hui, alors que l'on prend davantage conscience de la vulnérabilité de notre planète et de l'urgence à en prendre soin. Continuer de regarder vers l'espace, n'est-ce pas la meilleure façon de se détourner de la Terre ? La conquête, au fond, aujourd'hui, n'est-elle pas en train de se muer en fuite ? Une autre philosophe, Hannah Arendt, émettait aussi des doutes quant à la vertu de l'exploration spatiale. Elle y voyait-elle un risque de déracinement de l'humanité ? Certes, le progrès est partie intégrante de notre condition humaine, mais tout comme notre enracinement terrestre. Que reste-t-il de notre humanité si nous ne sommes plus liés à cette terre que nous habitons ? Comment donc penser le progrès de nos connaissances et le désir d'exploration sans qu'il nous fasse perdre le fondement de ce que nous sommes ? Peut-être d'abord est-ce une histoire de mots. Il y a une différence entre parler de conquête spatiale et d'exploration spatiale. Tant qu'il s'agit d'explorer, de découvrir, d'augmenter nos connaissances de l'univers, ces progrès s'inscrivent dans un désir de vérité. Mais s'il s'agit de conquérir, de s'approprier, d'exploiter, alors on risque de retomber dans la tentation de la colonisation. Il y a absolument un appel irrésistible de l'espace, un mélange de désir, de puissance absolue et en même temps d'humilité absolue. Car voler dans l'espace, c'est aussi prendre conscience de la petitesse de notre planète et de notre condition. C'est l'occasion de méditer le silence éternel de ces espaces infinis, comme disait Pascal, et de repenser autrement la place de l'homme dans l'univers. L'exploration spatiale n'a donc pas de sens si elle n'est pas liée à une exploration de notre humanité et de notre condition terrestre. Ou pour le dire autrement, nous sommes tous déjà des astronautes puisque nous habitons une petite planète suspendue dans l'univers.
Et Roland Le Houx a pris beaucoup de notes pendant votre chronique. Roland Le Houx.
Oui, bien sûr, c'est une question extrêmement intéressante, surtout par les temps qui courent, si j'ose dire, où on est en train de se rendre compte que notre planète est finie. Alors on le sait depuis longtemps que notre planète est finie, mais on a pu avoir longtemps l'impression qu'elle était si grande qu'en fait elle avait des propriétés de l'infini. On pouvait piocher sans compter dans des réserves supposées ou ressenties comme très grandes, presque infinies. Là, on réalise qu'elle est finie de mille façons, notamment parce que les déchets que nous éjectons finissent par s'accumuler, que ce soit des déchets matériels, que ce soit des déchets gazeux, comme le gaz carbonique dans l'atmosphère, que ce soit les PFAS, que ce soit tout ce qu'on veut. Enfin, vous en faites une liste aussi grande que l'on veut. Je pense qu'on peut l'allonger considérablement. Et donc, cette planète est finie. Et l'échappatoire que certains proposent, c'est de dire « Oh, bah, c'est fini, bah, on va aller ailleurs. Hein, » Si on allait glorieusement écraser les écosystèmes, enfin qui n'existent pas malheureusement, enfin les écosystèmes martiens, lunaires ou ailleurs, bah, finalement, ça donnerait une échappatoire. Et donc, ils s'en servent de ce prétexte spatial pour faire la promotion d'une voie qui est sans doute une voie sans issue, tant les ressources énergétiques et matérielles nécessaires pour envoyer beaucoup d'humains dans l'espace, parce que si c'est pour envoyer quelques milliardaires et leurs copines dans l'espace, ça va, ça ira sûrement, et puis qu'ils y restent, mais sinon, pour tous les autres humains, non, en fait. Donc voilà, ça pose ces questions-là, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y fait, envoie-t-on des humains, est-ce qu'on est en train de conquérir plutôt d'explorer l'espace, et puis quel est le but ? Enfin voilà, c'est plutôt poser la question du pourquoi on fait ça plutôt que du comment ou on le fait parce qu'on sait le faire.
Allez, tous les épisodes de la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice sont à podcaster sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres du chef Grégory Cohen. Alors, Grégory, j'ai choisi dans votre nouveau livre une moussaka végétarienne.
Une moussaka végétarienne. Et si vous m'y autorisez, Ali, j'aimerais la dédier, cette recette, à votre maman, car je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui.
Ah, c'est gentil comme tout, Grégory. Ah
bah voilà. Bon anniversaire, maman. Voilà. Allez, aujourd'hui, on va en Grèce. C'est une recette qui est donc une moussaka végétarienne. Elle va être faite en trois étapes. Tout d'abord, on va commencer par les légumes, puisque c'est une moussaka
végétarienne.
Merci Sandra. Et donc, on va prendre trois grosses aubergines, deux pommes de terre, deux courgettes et de l'huile d'olive. On est en Grèce. Pour la sauce aux lentilles, on va prendre 250 g de lentilles vertes, deux oignons, trois gousses d'ail, 400 g de tomates concassées, un bâton de cannelle, c'est optionnel, une cuillère à café d'origan séché, mais si vous en avez du frais, c'est encore mieux, une feuille de laurier et de l'huile. On est en Grèce. Pour la béchamel, 75 g de beurre, 75 g de farine, 750 ml de lait chaud, 2 œufs, 100 g de kefalograviera, on est en Grèce, ou du parmesan, plus simple peut-être à trouver, oui. Une pincée de muscade, du sel et du poivre. Et on va commencer par les légumes, on les coupe, les aubergines en tranches, on les sale pour les laisser dégorger pendant une demi-heure environ. Pendant ce temps-là, on coupe les courgettes, les pommes de terre. Une fois les aubergines égouttées, on badigeonne le tout d'huile d'olive, évidemment. Puis on les fait griller au four à 200 degrés. On cherche le goût du doré, pas forcément le gras dans cette recette. Ensuite, on passe à la sauce. Les lentilles cuisent tranquillement dans une eau frémissante pendant que les oignons et l'ail reviennent dans un peu d'huile d'olive, forcément. Puis, on ajoute les tomates concassées, la cannelle optionnelle, l'origan et la feuille de laurier. On incorpore les lentilles une fois cuites et égouttées. On laisse mijoter une vingtaine de minutes et normalement là, ta cuisine, Sandra, si tu es arrivée jusqu'au bout de cette étape, commence à sentir bon la Méditerranée. Pour la béchamel, on prépare un roux. Alors le roux, c'est le beurre et la farine dans une casserole à feu moyen. Puis on verse le lait en filet, tout en fouettant. Et on ajoute ensuite une pincée de muscade. Et hors du feu, c'est important, on incorpore les œufs de façon à ce qu'ils ne cuisent pas. Puis le fromage. La texture doit être veloutée, brillante, presque sensuelle. Eh oui, le montage est un moment de poésie. On alterne les couches de légumes grillés et de sauce aux lentilles. On termine avec la béchamel que l'on étale généreusement et on saupoudre d'un peu de fromage râpé. Le plat passe au four pour 45 minutes à 180 degrés. Ensuite, on le dresse dans une assiette avec un peu de salade et on le déguste avec du pain chaud. Alors, yalla, Sandra, à toi de jouer.
Et votre recette, Grégory Cohen, est disponible dans votre livre Yalla, ma cuisine méditerranéenne chez Le Duc. Allez, dans un instant, la chronique Mauvaise Langue de Sandra Colombo. En attendant, on écoute Yamé qui interprète Shoot.
Ne prends pas la tête. Je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux, c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans la reine. Entre le love et la haine, t'es comme toi, j'en fume à perte de vue. Mais est-ce que je finirai pas en perdre la vue? Je me dis que c'est pour l'inspi. Et comme elle est hyperactif, j'allume mes cordes, le chromie. Je voudrais chanter toute ma vie. Tête, ma gueule ça joue, 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 nuit. J'ai toujours su qu'elle était ton prix. Mais encore une fois, juste une dernière dose. Faut continuer de faire des sorts.
un daron plus qu'il débellise. Je m'inquiète, sa santé se fragilise. Donc une dernière fois je me carbonise. Ma gueule ça chou. Ma gueule ça chou.
Yamé interprété shoot.
France Inter.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
Rends bien vous face.
C'est cela, oui, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
Mauvaise langue avec Sandra Colombo.
Oui, je ne veux pas être mauvaise langue, Ali, mais vous n'imaginez pas à quel point je suis une baroudeuse. Là, par exemple, je reviens du pays des stars. I am revening from the Festival de Cannes, the pays of the étoile. Yes, les stars speak in English ou en américain, hein, ce qui est à peu près pareil, sauf l'accent. Et dans ce type de voyage, bien évidemment, il faut se préparer. Alors, dans ma dernière chronique, je vous ai raconté mes déboires pour tout ce qui était vêtir ce petit corps conceptuel qui est le mien. D'ailleurs, parenthèse, merci pour tous vos messages après ma chronique. Et pour répondre à la question, non, personne ne s'est précipité pour me prêter des habits éblouissants. Je me suis débrouillée seule. J'ai acheté ma tenue chez une marque dont le créateur était pourtant réputé pour ses remarques grossophobes. Chez Karl Lagerfeld, t'as habillé une petite grosse pour son premier tapis rouge. Fermeture de la parenthèse. J'ai donc eu l'immense joie, bonheur, fierté de fouler, moi aussi, le tapis rouge. The red carpet, comme on dit en américain. First, I was afraid. I was petrified de monter les stairs with les stars. Ah, bah, il faut dire que quand on arrive devant ce tapis rouge, face à the mythic palais of the festival, ça fait quelque chose. Et pile en descendant de la voiture avec chauffeur, qui se pointe alors qu'il n'a pas été invité ? Mon syndrome de l'imposteur. Ah, bah bien sûr. Ça m'a énervée, d'autant que quelques heures avant, j'avais déjà donné congé à son cousin. Le complexe de la paille dans les sabots. Oui, le malotru était venu me rendre visite quand j'entrais au Carlton pour me faire maquiller et coiffer. Oui, il y a un grand nombre de phrases totalement improbables dans cette chronique.
Oui, je confirme.
À peine entrée dans cet iconique hôtel, que toc toc toc, une petite voix dans ma tête se moque de moi et me dit à quel point c'est ridicule d'être là, que vraiment, non mais, regarde-toi, tu te trouves à la hauteur ? Bon, après, c'est vrai que quand on fait 1m50, ça peut être une question légitime. Et vas-y qu'elle insiste. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, dans ce monde dont tu n'as pas les codes ? Regarde-les, tous ces gens chics et à l'aise. Et regarde-toi, meuf. Va te cacher plutôt, non ? Je la connais bien, cette petite voix. C'est celle de la provinciale que je serai à jamais. Et qui débarque à Paris avec cette sensation d'avoir de la paille dans les sabots. Heureusement, après des années à la fréquenter, j'ai des techniques. Je lui ai conseillé de mieux observer tous ces gens qui se la racontent. Eux aussi, ils se sentent les provinciaux de quelqu'un. Et oui, sinon pourquoi feraient-ils autant d'efforts pour afficher leur signe de luxe, calme et volupté ? Quand on va bien, qu'on est en accord avec ce qu'on est, on n'a pas besoin d'écraser les autres avec une supériorité qui n'existe pas. Mais à peine le parasite parti, que paf, l'autre se radine à la sortie de la berline. Ah là là, l'imposteur, il est fort, il est pernicieux, il vient nous chercher dans ces endroits secrets où on cache nos doutes et nos intranquillités. Et là, c'est la fête à la saucisse. Et vas-y, qui se moque de moi, qui me trouve ridicule d'être là, à mettre mes pas dans ceux des vrais stars alors que j'ai quasi rien fait au cinéma. Mais pour qui je me prends, que je crois quoi, que je vais entamer une carrière d'actrice maintenant, à mon âge. Alors j'ai fait comme vous me l'aviez conseillé, Ali. Pour ne pas m'envoler dans un espace d'insécurité, je me suis branchée sur l'espace temps présent. J'ai regardé, profité et ressenti ce moment si intense. Et puis je me suis dit que oui, sur ce tapis, il y avait des stars, des vrais, à l'instar de Léa Drucker ou de Dominique Moll, par exemple.
Le réalisateur.
Mais oui, mais que nous tous, nous venons aussi des étoiles. Nous sommes toutes et tous des poussières d'étoiles. On peut exister sans permission. Alors faisons taire nos petites voix destructrices et laissons briller notre lumière intérieure. Car tous, yes, we can.
Rappelez le titre du film de Dominique Moll qui sortira cet automne.
Dossier 137.
Merci beaucoup Sandra Colombo. On vous retrouve en spectacle mardi à 21h15 au Point Virgule.
Tout à fait, je serai également au Festival d'Avignon.
Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Week-end. Merci aux amis du vendredi, Sandra, Thibault, Yolène et Grégory. Merci beaucoup Roland Lehoucq d'être venu. J'aimerais que vous reveniez au moment de votre festival Les Utopiales consacré à la science-fiction. Ce sera cet automne. Vous reviendrez avec plaisir. Et évidemment, Olivier Delcroix du Figaro, on vous lit dans le Figaro et vous reviendrez à nouveau, bien sûr, dans cette émission.
Et effectivement, je confirme que le festival Les Utopiales auquel j'ai participé est formidable. Il faut y aller.
Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Cyrine Ben-Younès, Lucie Grandet-Lavigne avec l'aide d'Antoine Poitras et de Candice Leré, à la réalisation Yann Ozaman et à la programmation musicale Valentine Chedebois. Je vous retrouve demain à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron, et lundi, comment bien s'occuper des parents qui vieillissent. On évoquera notamment cette fameuse génération sandwich qui est prise entre ses propres enfants et ses parents qui vieillissent.